Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre et surtout du premier numéro de l'année 2023 de votre émission littéraire. Belle et heureuse année à toutes et à tous, une année lumineuse et pleine de découvertes littéraires. C'est tout ce que nous vous souhaitons du plus profond de notre cœur. Je souhaite également partager avec vous ces deux vers du poète Paul Éluard. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Pour débuter cette année 2023, nous vous proposons de réentendre un numéro d'un wagon livre avec l'écrivain Lionel Duroy. Un numéro diffusé sur l'antenne de Radion le 5 novembre 2022. Dans cet entretien, Lionel Duroy évoquait son dernier roman « Disparaître » paru chez Mialet Barreau Éditeur. Et le narrateur du roman de Lionel Duroy décide, à l'âge de 70 ans, d'enfourcher son vélo pour quitter la France et se rend donc en pédalant dans les pays de l'Est. Et l'objectif à atteindre, c'est Stalingrad. Alors on est en route dans ce roman pour des pays qui fascinent Lionel Duroy, à savoir la Transnistrie, la Moldavie, la Roumanie. Mais le but pour le narrateur du roman de Lionel Duroy, et ça a été aussi le but de Lionel Duroy, c'est que ce voyage à vélo consiste à pédaler, à s'épuiser, peut-être même tomber de fatigue dans un fossé au bord de la route, que personne ne vous relève, et de mourir donc finalement, de disparaître sans laisser de traces. En tout cas, vous allez l'entendre, et Lionel Duroy va d'ailleurs s'exprimer d'ici quelques secondes, le narrateur et Lionel Duroy se ressemblent étrangement. Lionel Duroy.
C'est moi le narrateur, je ne m'en cache pas, je l'appelle Augustin parce que j'aime bien mettre un peu de distance entre le narrateur d'un roman et moi, mais d'une façon générale, dans la plupart de mes livres, j'explore ce qu'est la profondeur de la vie et je passe par mes propres expériences.
Celles et ceux qui ont l'habitude de vous lire savent que vous avez souvent mis en scène dans vos romans les membres de votre propre famille, c'est d'ailleurs une sorte d'obsession, votre famille. Et effectivement, on retrouve là vos quatre enfants que le narrateur retrouve dans un restaurant parisien pour leur annoncer qu'il va partir à vélo à Stalingrad. Donc on retrouve là vraiment, une fois de plus, dans votre dernier roman « Disparaître », des membres de votre propre famille.
Dès mon premier roman « Priez pour nous » en 1990, où je racontais l'histoire de notre enfance très chaotique, mes neuf frères et sœurs m'ont tourné le dos. Donc pendant 30 ans, je ne les ai pas revus. Donc mon entrée en littérature a été très violente. Mais en même temps, je suis devenu écrivain parce que j'ai eu cette enfance très chaotique. Donc j'ai soutenu « Priez pour nous », mon premier roman, qui a été tourné au cinéma ensuite, 2 ans plus tard. Mais ça a été quand même une grande douleur pour moi, parce que j'aimais beaucoup mes frères et sœurs. Et finalement, toute ma vie d'écrivain aura été dans un assez grand isolement, en fait. Mes frères et sœurs sont revenus vers moi seulement 30 ans plus tard. Et d'ailleurs, j'en ai écrit un livre qui s'appelle « Nous étions nés pour être heureux », qui est une sorte de mise en scène du retour de toute ma famille. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais vous voyez, 30 ans après mon premier roman.
Cela méritait-il de sacrifier la famille ? Est-ce que vous en aviez mesuré le risque ?
J'en avais pas mesuré le risque du tout. Avec le recul, je peux dire qu'évidemment, l'écriture vaut cela. Il y a un prix à payer pour écrire. Je ne sais plus qui disait « Mettez un écrivain dans une famille et la famille vole en morceaux ». Tout mon travail d'écrivain, ça a toujours été d'essayer d'exprimer les secrets, d'exprimer l'indicible. C'est ça qui m'intéresse. Donc, vous savez bien que la famille, c'est une sorte de cloaque où se cachent beaucoup de secrets inavouables, beaucoup de douleurs chez les enfants, beaucoup de choses comme ça. J'ai découvert la vie en me mettant à écrire à l'âge de 12 ans ou 13 ans. J'ai découvert que je pouvais tout comprendre grâce aux livres et pas grand-chose grâce aux adultes. Donc, j'ai appris la vie à travers des livres, et j'ai décidé de devenir écrivain très jeune, à 18 ou 20 ans. Donc, mon travail d'écrivain, c'est toujours d'explorer nos faces secrètes, nos faces les plus cachées, parce que je pense que ça entre en écho avec les lecteurs, qu'au fond, les lecteurs, ils cherchent, comme moi quand j'étais enfant, à ce qu'on leur explique ce que c'est que vivre. Et donc, j'ai un travail d'écriture à travers ces 20 ou 25 romans, je ne sais plus, qui est toujours d'essayer de dire ce que c'est que vivre, la difficulté d'exister, de trouver nos ressorts secrets, comment on trouve la force de mener notre vie, etc. C'est ça mon travail.
Il s'agit aussi pour votre narrateur, Augustin, d'être reconnu par ses enfants. Or, aucun ne se demande jamais comment il traverse la vieillesse et comment il s'arrange de la vieillesse. Et en fin de compte, les quatre enfants de votre narrateur romancier ne l'ont jamais lu.
Absolument, mais vous soulevez un problème fondamental qui est celui des enfants d'écrivains ou d'écrivaines.
Alors, qu'ont-ils de plus ou de moins que les autres, les enfants d'écrivains ? Ont-ils de la chance d'avoir un parent écrivain ? Ont-ils de la chance, en fin de compte, ou n'ont-ils pas de chance ?
Peut-être ils n'ont pas de chance et peut-être ils auront de la chance plus tard. Je veux dire par là que les écrivaines ou les écrivains écrivent le plus souvent très près d'eux et que donc, pour les enfants, ça consisterait à regarder par le trou de la serrure de lire leurs livres. Les enfants n'ont jamais envie de regarder par le trou de la serrure dans la chambre des parents. Jamais, ça n'existe pas. Les parents, c'est des êtres un peu irréels, à part, totalement perchés ailleurs. Par exemple, on le sait très bien, on l'a tous traversé, les enfants ne peuvent pas imaginer une vie sexuelle de leurs parents, ça n'existe pas. La plupart du temps, quand vous parlez à des gens de 40, 50 ans de cette question, ils vous disent « Ah, une fois j'ai entendu des bruits dans la chambre conjugale et j'ai pensé que mes parents faisaient l'amour. Ah, quelle horreur de penser une telle chose !» Ça, c'est toujours le point de vue des enfants, quel que soit leur âge. On ne peut pas, lorsqu'on est enfant, imaginez que nos parents sont des êtres humains à part entière et font donc l'amour. Ça, c'est impossible. C'est un secret tabou. Donc, pour des enfants d'écrivaines ou d'écrivains, c'est très compliqué. Et c'est une question qui me passionne, en fait, depuis le début, pratiquement. Je ne l'ai pas eu tout à fait à l'esprit quand j'ai écrit mon premier roman, parce que je n'avais à l'époque que deux enfants minuscules. Donc, ce n'était pas la question. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, même un peu plus, quatre enfants qui sont tous adultes. La question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de mes livres me touche. Elle ne me choque pas du tout. Je comprends qu'ils ne les lisent pas. Et en même temps, je suis dans l'ambivalence. Ça me rend triste parce que je me dis, j'aurais tellement aimé que mes parents me laissent des écrits, quelque chose sur pourquoi ils se sont aimés, comment ils se sont rencontrés, comment a été leur vie. Mes parents ont eu une vie tellement triste, on était 10 enfants. Je pense que mes parents sont morts d'épuisement et de pauvreté. Donc j'aurais aimé trouver un texte de mon père ou de ma mère qui parle de leur chagrin, de leurs difficultés à vivre.
À supposer que vos parents aient laissé des écrits, ces textes écrits par vos parents, s'ils existaient, que vous ayez mis la main dessus, ça vous aurait peut-être fait de la peine ou donné encore plus de chagrin. Et pourquoi auriez-vous désiré une trace écrite de la vie de vos parents ? Qu'est-ce que cela vous aurait donné de plus ?
Parce que je passe mon temps à écrire sur les gens que je rencontre. J'écris sur mes enfants, j'écris sur les femmes que j'ai aimées. J'ai beaucoup écrit sur mes parents. Et que tout d'un coup, ça aurait été des mots vrais et justes. Par exemple, j'adorais mon père, ma mère ne nous aimait pas et je l'aimais pas non plus. Mais j'aurais beaucoup voulu tomber sur des lettres d'amour où mon père explique pourquoi il a tant aimé cette femme. J'en ai une petite idée, mais au fond, je n'en sais rien. Et la curiosité qui nous prend à l'égard des parents nous prend généralement vers l'âge de 50 ans à peu près. Donc pour répondre à la question, je continue en fait notre échange. Je suis certain que d'ici 20 ans, quand mes enfants auront autour de 50 ans, ils ont autour de 30 ans aujourd'hui, mes livres peut-être se mettront à les intéresser. Voilà. Et qu'à ce moment-là, ils seront heureux d'ouvrir un livre comme Le Chagrin, par exemple, qui est pour moi un livre très très important dans mon travail, que j'ai écrit il y a 13 ou 14 ans, qui est un livre monumental, qui m'a rendu malade, etc., où je raconte toute la traversée du siècle par notre famille, mais la traversée du siècle en général, du XXe siècle. Voilà, et je pense qu'ils n'ont jamais ouvert ce livre. Eh bien, il y a un âge, je serai mort depuis longtemps, où tout d'un coup, ils vont s'intéresser. Et à ce moment-là, les tabous tombent, je le sais. Bien longtemps après la mort des parents, tout ça tombe, parce qu'évidemment, on a 50 ou 60 ans soi-même, on ouvre des livres écrits par sa mère ou par son père, et alors, c'est plus une histoire de non-dit, l'histoire que les parents font l'amour. Évidemment qu'ils font l'amour, qu'ils se sont aimés, qu'ils ont eu des amants et tout ça. Tout ça, c'est fini. Alors, à ce moment-là, c'est passionnant pour eux, je pense, de découvrir les livres de leurs parents.
Dans votre roman Disparaître, Lionel Duroy, il y a cette phrase que je cite, « Les parents sont là pour mourir, pas pour se plaindre. N'inversons pas les rôles. » Et il y a des parents qui subissent leurs enfants, mais il y a également des enfants qui subissent leurs parents.
Les parents peuvent tout à fait subir leurs enfants, mais lorsque les enfants subissent leurs parents, c'est que la famille a totalement dysfonctionné. Moi, à partir de l'âge de 10 ans, ma mère, c'est le 11e ou le 12e enfant. C'est le pire des enfants. Pourtant, c'est notre mère. Mais c'est elle qui est la plus lourde à porter parce qu'elle est folle, parce qu'elle fait des crises de nerfs, parce qu'elle veut se suicider, parce qu'elle ne nous aime pas de toute façon. Et elle est ingérable. Donc, en fait, nous, les enfants, nous avons subi notre mère. Et comme mon père était totalement débordé par les ennuis financiers qu'il ne pouvait absolument pas élever 10 enfants, nous avons été les premiers conseillers de notre père. Moi, je suis le 4e de 10. Plus tard, je serai même le tuteur de mon père, nommé par la justice. Donc, vous voyez, on inverse les rôles. Je me retrouve à 35 ans tuteur de mon père. Mais enfant à 10 ou 11 ans, j'adore mon père et il nous demande conseil, en fait. On a été expulsés, on vit dans des HLM sans lumière, sans gaz, sans rien. On vit vraiment comme des gens impossibles. Et mon père va très mal et il a besoin de ses aînés. Et nous, les aînés, ma sœur qui a donc 15 ans, mes deux frères 14, 13 et moi 11 ou 10, nous sommes le petit conseil des ministres de notre père. Il nous demande conseil, nous les dons. Il parle avec nous de la difficulté à gérer notre mère, parce qu'il dit qu'elle est infernale, etc. Vous voyez, donc, oui, à partir de 10 ans, je subis mes parents.
Vous écrivez, Lionel Duroy, « Nous sommes issus d'une famille de hors-la-loi ». Or, votre narrateur, Augustin, est très attaché au respect de la loi, des normes, des règles. Vos parents ne vous les avaient pas transmises?
Aucune. Mon père était tout le temps hors la loi. Mon père faisait des chèques sans provision parce qu'il n'avait pas d'argent. Il avait une voiture qui avait plus de freins, des pneus lisses. Il se faisait tout le temps arrêter par les gendarmes. Il les baratinait comme il pouvait. Il a emprunté de l'argent sans jamais le rendre. On était des hors-la-loi, en fait. Et il ne nous a surtout, d'un point de vue éducatif, jamais dit la loi. Il nous disait plutôt comment violer la loi, puisque c'était la seule façon qu'on avait de nous en sortir.
Si vos parents, Lionel Duroy, avaient su que vous alliez devenir écrivain avec une belle carrière de romancier, qu'en aurait-il pensé? Et serait-il fier de vous?
C'est difficile à dire parce que je pense qu'ils ont eu tellement d'ennuis dans la vie. Vous savez, il n'y avait pas de livre à la maison. Être écrivain, je ne sais pas trop ce que ça aurait voulu dire pour eux, être écrivain. Moi, j'ai plutôt été élevé par ma sœur aînée, mon frère aîné, qui avait tout juste 4 et 3 ans de plus que moi, donc ça fait pas beaucoup, mais ça fait une grosse différence quand vous avez que 10 ans ou 11 ans. Une grande sœur de 15 ans, elle était beaucoup plus mature que nos parents. Donc c'est plutôt elle qui disait, il faut essayer d'avoir ton bac et ensuite d'apprendre un métier pour gagner de l'argent. Si j'avais dit, mais moi je veux être écrivain, elle aurait dit, non, mais c'est pas un métier, c'est un écrivain, tu vas faire compte. comptable comme tout le monde ou je sais pas quoi, ou cantonnier, mais tu vas pas faire écrivain.
Vous avez un temps été ouvrier, Lionel Duroy, avant que de connaître le succès littéraire qui est aujourd'hui le vôtre.
J'étais ouvrier, ouais. J'ai eu mon bac en payant, parce qu'on avait été déscolarisé, donc je me suis arrangé avec dans une petite école privée pour ne pas payer. Le directeur m'a pris avec un de mes frères et il a dit « vous payez pas, vous serez surveillant une fois que vous aurez votre bac. Ça remboursera la scolarité. » Et après le bac, j'ai été ouvrier. J'ai commencé des études à l'université où j'allais le soir. Et sans ça, toute la journée, j'étais ouvrier. J'ai été livreur dans des camions. J'ai travaillé sur des machines-outils. J'ai nettoyé les vides. J'étais homme de ménage. J'ai fait plein de choses comme ça pendant des années.
Si vous le voulez bien, Lionel Duroy, on marque un premier intermède musical au cours de notre échange. Je rappelle le titre de votre dernier roman paru aux éditions Miel et Barreau, Disparaître. On continue d'en parler juste après la petite virgule musicale qui ponctue notre échange. Je rappelle, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est Lionel Duroy qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion pour son dernier roman « Disparaître » paru courant août dernier aux éditions Mialet Barreau. Alors Lionel Duroy, on retrouve Augustin, votre narrateur, qui retrouve ses quatre enfants dans un restaurant à Paris et il a un projet à leur soumettre, il les en informe. Un projet qui est susceptible de les intéresser, mais qui doit aussi, d'une certaine manière, les faire réagir.
C'est ça. Il les a réunis tous les quatre pour les prévenir qu'il va partir en voyage, pour un très long voyage à vélo.
Mais, moi, n'importe, voilà, c'est ça.
Mais pas n'importe quel voyage.
C'est pas une croisière martinique. Hein.
Non, il va partir à vélo et il veut rouler jusqu'à Stalingrad. Donc c'est un immense voyage. Mais il ne dit pas aux enfants que c'est un adieu, cette journée. Or, c'est un adieu dans l'esprit d'Augustin. Il ne dit pas parce que aussi bien Augustin que moi détestons les cérémonies autour de la mort, détestons les cérémonies autour du chagrin.
Pourtant, ces cérémonies autour du chagrin sont inévitables.
Si, elles sont tout à fait évitables. Dans d'autres cultures, on ne se réunit pas pour pleurer ensemble autour du cercueil. Tout à fait, c'est tout à fait évitable. C'est très européen, très français aussi, de faire une espèce de chagrin par-dessus le chagrin, une espèce de cérémonie. Je déteste ça, voilà. Je le dis vite, je déteste les enterrements. Je ne veux pas mourir entouré de mes enfants. Je ne veux pas être délabré dans mon corps. J'ai toujours été, avec mes enfants, parfaitement propre, élégant. Je porte des chemises blanches et tout ça. Je ne veux pas qu'on me voie dans l'état de délabrement d'un mourant. Donc très tôt, il y a 13 ou 14 ans, j'ai écrit dans un roman qui s'appelle Colère, un jour je partirai sur mon vélo, je roulerai vers l'est, en l'occurrence vers Stalingrad, jusqu'à tomber d'épuisement et ainsi je mourrai, donc je disparaîtrai sans qu'on retrouve mon corps, j'aurai quitté la vie en disparaissant. Et c'est ça, pour moi, disparaître. C'est très joyeux de disparaître.
Vous n'utilisez pas, en fait, le verbe mourir, mais vous utilisez le verbe disparaître. D'une certaine manière, c'est une façon de privilégier l'euphémisme.
C'est-à-dire, c'est très différent parce que c'est beaucoup plus poétique. Mourir, c'est stupide. La mort, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle ne m'a jamais fait peur, en fait. Assez souvent, j'ai pensé, oh, ça doit être agréable d'être mort, je vais enfin pouvoir me reposer. Donc, je veux disparaître.
La mort, cette sale conne, écrivez-vous dans une des pages de votre roman, Lionel Duroy.
La mort, cette sale conne. La mort, c'est le dernier moment de notre vie. Moi, j'ai été ouvrier, mais j'ai aussi fait des études de philo parce que dès l'âge de 20 ans, ça m'intéressait la mort. Je me disais, ah bon ? Parce que donc la vie s'arrête un jour, donc, et ce moment de la mort, qu'est-ce que je vais en faire ? Parce qu'il est à moi quand même. J'ai pas l'intention qu'il me réduise à l'état de grabataire, ce moment. Ce moment, il m'appartient. Donc, je veux le vivre vivant. Vivant, soit sur mes pédales, soit debout, mais vivant. Donc, je ne vais pas me faire rattraper par le délabrement de mon corps pour me retrouver cloué au lit, entouré de mes quatre enfants que j'adore et devant lesquels je me suis toujours présenté élégant et propre et bien coiffé, etc.
Et bien portant.
Et bien portant et prêt à rire et à sourire. J'adore mes enfants, je veux qu'ils gardent cette image de moi. Donc, je veux disparaître, entendons-nous bien, et je l'ai donc écrit il y a 13 ou 14 ans, ils ont très bien pu le lire s'ils veulent. Et donc, je mets en scène cette journée où les quatre enfants sont avec moi. C'est une très belle journée de juillet.
C'est en effet une très belle journée de juillet. Cela se passe donc dans un restaurant parisien. Il y a des taquineries, des moqueries entre frères et sœurs. Et les enfants, lorsqu'ils apprennent le projet paternel, ils le désapprouvent. Ce périple à vélo vers Stalingrad leur semble insensé. Enfin, papa, tu as 70 ans, t'es complètement inconscient. 6000 kilomètres pour te rendre à Stalingrad et 80 kilomètres par jour. Mais enfin, t'es complètement irraisonnable. C'est ça, en fait, le point de départ de la réaction des enfants.
Et en même temps, ils prennent pas au sérieux le projet. parce qu'ils pensent que de toute façon, quand vous avez 70 ans, peu importe ce que vous dites, c'est pas très grave. C'est vraiment, cause toujours papa, tu vas bientôt mourir. Donc en fait, ils en ont rien à faire. Et j'adore ça. J'adore que les enfants soient bien dans leur tête pour penser qu'en effet, c'est la place des parents de mourir et c'est la place des enfants de vivre. Voilà, je n'ai rien à faire de leur pitié, je ne veux pas qu'ils aient pitié de moi. Et je dis, je suis super content, j'ai fait restaurer mon grand vélo de voyage, un vélo Alex Singer que j'ai fait construire sur mesure il y a 50 ans pour mon premier grand voyage. Je vais repartir sur ce vélo.
Pas n'importe quel vélo d'ailleurs, Lionel Duroy, parce que c'est la Rolls des vélos.
C'est la Rolls des vélos, l'Alex Singer, des vélos très chers, absolument magnifiques, construits sur mesure. Et donc, tout ce qu'ils entendent, c'est que à 70 ans, je vais en effet rouler seul vers Stalingrad. Mais je ne leur dis pas que c'est pour tomber et disparaître. Je leur dis juste, je repars en voyage. Et ça les fait à moitié rigoler, en fait. Ils rigolent, et puis en même temps, la petite, qui est toujours un peu maternante avec moi, elle me dit aussitôt, non mais t'es complètement fou à 70 ans, partir sur ton vélo. Mais pour, dans leur tête à eux, je vais revenir. Et puis peu importe, en fait. C'est mon histoire à moi, ma mort. Elle ne leur appartient pas.
En fait, il s'agit de bien comprendre le projet de votre narrateur Augustin. Le but, c'est de pédaler jusqu'à Stalingrad. Et si le narrateur tombe dans un fossé d'épuisement, de fatigue ou de malaise, ou s'il est renversé par un camion et que la mort s'ensuit, eh bien, en fin de compte, l'objectif est atteint. C'est une disparition réussie.
Parce qu'il faut quand même comprendre quelque chose. Moi, je passe mon temps en voyage. Hein. Je rentre d'Ukraine, là. Je rentrais le 15 août. Hein. Je passe mon temps en voyage. Une fois que vous quittez les limites de l'Union européenne, c'est-à-dire quand vous quittez la Roumanie pour entrer en Moldavie, vous pouvez mourir au bord de la route, on ne vous ramasse pas. Je connais très bien tous ces pays, quoi. Mais bien sûr, on va s'occuper de vous dans l'Union européenne. Une fois que vous franchissez la frontière entre la Roumanie et la Moldavie, vous entrez dans des pays très, très pauvres. Les gens ne connaissent pas, ils ne vont pas se promener en Moldavie. Moi, je vais tout le temps en Moldavie, à Chisinau et ensuite en Ukraine. Ce sont des pays où on ne s'occupe pas des gens, il n'y a pas d'argent.
En fait, Lionel Duroy, si je vous comprends bien, ce n'est pas par inhumanité, mais c'est tout simplement parce que là-bas, hors finalement des frontières de l'Union européenne, on ne va pas s'occuper d'un corps renversé par un camion au bord de la route.
Et en plus, là-bas, on ne fait pas beaucoup de vélos. Vous savez, les camions, ils ne vous calculent pas si vous êtes à vélo. Vous avez une chance sur deux de vous faire renverser. Hein. Il y a, en Moldavie, je crois que c'est les chiffres de tués par les camions sont très, très élevés. On n'est plus dans l'Union européenne. Ce n'est plus les mêmes valeurs. Donc, quand je dis que je roule vers l'Est, vers Stalingrad, je sais très bien ce que je fais. C'est des endroits où on peut disparaître facilement. C'est pour ça que je vais là-bas. Mais c'est aussi parce que j'adore l'Est. Je suis né après la guerre, dans une Europe coupée en deux par un mur. Je me suis, à 20 ans, j'étais tout le temps fourré à Berlin parce que j'étais fasciné par ce mur qui coupait la ville en deux. J'allais à Berlin-Est pour la journée, je restais à Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, ils avaient mis des miradors pour qu'on regarde les pauvres de l'autre côté du mur. Le soir, Berlin-Ouest était entièrement illuminé, ça faisait une coupole de lumière au-dessus de la ville. Du côté communiste à l'Est, c'était plongé dans la nuit. Quand vous avez 20 ans, c'est très impressionnant. Moi, je suis né dans cette Europe-là. Je suis né dans l'Europe de Auschwitz, où on découvre... C'est-à-dire la première chose qu'on vous explique quand vous avez 13 et 14 ans, c'est qu'il y a 6,5 millions de juifs qui ont été brûlés. Et vous êtes sous le choc, vous ne comprenez pas comment c'est possible. Mais pourquoi on a tué des juifs? C'est invraisemblable. Et j'apprends que la guerre a basculé à Stalingrad.
Alors oui, certes, la Seconde Guerre mondiale a basculé à Stalingrad, mais dans votre roman Disparaître, vous écrivez que Auschwitz et Stalingrad sont des événements inconcevables. Vous rappelez par exemple que la bataille de Stalingrad, c'est un bilan humain catastrophique, 2 millions de morts.
Ce qu'il y a de plus choquant, c'est plus ou moins 2 millions de morts. C'est-à-dire que la bataille de Stalingrad engloutit tellement de vies humaines qu'on n'est même pas capable de dire le chiffre exact. C'est-à-dire que des identités ont disparu. Des hommes qui avaient des prénoms, un nom, qui étaient pères, qui étaient enfants, ont disparu à Stalingrad sans même qu'on le sache. C'est plus ou moins 2 millions de morts. Stalingrad, c'est monstrueux en fait. Mais c'est à Stalingrad que Hitler perd la guerre. Il lui faut Stalingrad pour avoir le pétrole du Caucase. À partir du moment où il n'emporte pas Stalingrad, Hitler a perdu la guerre. C'est un tournant très important de la guerre, donc du XXe siècle. C'est déterminant dans nos vies, à nous qui naissons après la guerre. Et donc, pour moi, l'Est est une espèce de bibliothèque permanente. Je suis, quand j'ai découvert « Vie et destin » de Vassili Grossman, qui est vraiment un monument littéraire sur la bataille de Stalingrad, j'ai compris que j'allais retourner là-bas autant de fois qu'il le fallait.
Et puis en effet, il y a ce roman de Vassili Grossman, « Vie et destin », paru l'année de vos 30 ans.
Oui. C'est un événement. Je me souviens que Le Monde avait fait sa une dessus, sur la publication enfin du manuscrit de Vassili Grossman, qui était mort de chagrin parce que le KGB russe, donc soviétique, lui avait supprimé son manuscrit. Et donc il est mort en pensant que son manuscrit était perdu. Et il y avait heureusement 3 exemplaires du manuscrit. Le manuscrit a pu arriver en Suisse beaucoup plus tard et il a été enfin édité à l'Ouest. Et donc je découvre ce livre qui est un monument de littérature et qui est le plus beau livre qui existe sur la bataille de Stalingrad, vu du côté communiste.
Vous parlez aussi du caput de Malaparte. Alors caput, c'est comment cacher son manuscrit à la barbe de l'ennemi en fait.
Caput de Curzio Malaparte, c'est le plus beau livre sur la Seconde Guerre mondiale, écrit donc par un Italien, Curzio Malaparte. Et comme il était correspondant pour le Corriere della Sera auprès de l'armée allemande, puisque les Italiens étaient les alliés des Allemands, il écrivait tous les jours des articles dans son quotidien sur les batailles livrées par les Allemands. Il était impossible que, alors qu'il était dans cet état de correspondant, il écrive ce roman. Or, il a écrit son roman tout au long de la guerre, il l'a caché. Et ce roman, c'est un miracle, en fait, parce que finalement, il a réussi à sauver les 3 parties de son manuscrit en les faisant envoyer chez lui par des ambassadeurs de différents pays belligérants dans la guerre, et le livre a été sauvé. Et je le redis, Caput de Malaparte est un chef-d'œuvre.
En tout cas, au cours de notre échange, vous pourrez noter donc quelques titres et références littéraires à découvrir ou redécouvrir durant cet hiver. À découvrir également le roman de notre invité Lionel Duroy, roman qui a pour titre « Disparaître » et qui est disponible en librairie aux éditions Mialet-Barreau. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, et nous revenons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima.
Un souffle frais, je ne m'en remets pas, la tête dans le gaz. petite bombe à moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Il est l'auteur de plus d'une vingtaine de romans, dont Le Chagrin, prix François Mauriac et prix Marcel Pagnol. Auteur également de L'Hiver des Hommes, prix Renaudot des lycéens et prix Joseph Kessel. On mentionnera aussi, puisqu'il est disponible en livre de poche, Eugénia, prix Anaïs Nin. C'est Lionel Duroy qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio N pour évoquer son dernier roman qui a pour titre Disparaître et qui est disponible aux éditions Mialet Barreau. Alors effectivement, Disparaître. Lionel Duroy, vous avez mis en scène un narrateur qui vous ressemble particulièrement et qui est candidat à la disparition. Il s'agit d'éviter le chagrin, les pleurs, les couronnes mortuaires à ses enfants. Il s'agit pour lui d'une épopée qui consiste à partir sur son vélo, à parcourir 80 km par jour. Et puis il y a tout de même, avant le départ, une petite fatigue du corps, des problèmes mécaniques de ce vélo, quand bien même c'est la Rolls des vélos. Donc votre narrateur part à vélo, donc direction le sud de la France, l'Italie, direction l'Est, puisque l'objectif c'est Stalingrad, l'objectif victorieux, j'allais dire. Et le narrateur doit écrire régulièrement pour envoyer des extraits du futur livre à son éditeur resté en France et qui attend donc ces extraits. Et en Slovénie, il y a un épisode amoureux suite à une chute à vélo.
Je tombe comme prévu d'épuisement. En fait, je tombe malade et je tombe de vélo, en effet. Et donc, on me ramasse et on me met dans un hôpital.
Oui, en fait, le lieu ressemble plus à un hospice pour vieillards qu'à un hôpital.
Si, parce que le seul endroit qu'ils ont trouvé où me mettre, le plus proche de l'endroit où je suis tombé, est en fait une espèce de mouroir. Donc, je me réveille au bout de 2 ou 3 jours. C'est une immense salle commune. Ça, c'est très important, en fait. Parce que tous les gens qui m'entourent, c'est exactement ce que je ne veux pas être. Ce sont des personnes de plus de 90 ans qui pleurent et qui gémissent chaque fois qu'on leur fait leur toilette, tellement leur corps leur fait mal.
Oui, c'est terrible. Ces pages sont terribles.
C'est horrible, en fait. Et le hasard a voulu qu'après être tombé, on me sauve, on me met là, et je suis entouré de ce que j'étais en train de fuir, ce que je veux précisément ne pas devenir. C'est-à-dire une personne grabataire. C'est très triste de finir sa vie comme ça. Et j'en ai l'exemple là, parce qu'on est peut-être 12 dans cette grande salle commune. Je suis le plus jeune, je suis presque un gamin par rapport à eux, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que je suis très vivant. Moi, je me réveille, on m'a mis des trucs dans les veines et tout ça. Mais je me réveille vivement et je regarde les gens. Et je me souviens que c'est le 6e ou 7e jour, le monsieur qui était en face de moi, je découvre que le lit est vide quand je me réveille. Et on me dit, en fait, il est mort dans la nuit. C'est vraiment un mouroir. Et ça, je trouve ça, c'est indigne, en fait. C'est indigne de prolonger la vie comme ça. Les gens souffrent, ils attendent de mourir. J'étais entouré de gens comme ça, c'était exactement ce que j'étais en train de fuir.
Il est vrai qu'en France, il y a un projet législatif peut-être à venir sur ce fameux droit à mourir dans la dignité. Enfin, c'est un grand débat qui est pleinement ouvert en France pour différentes raisons et qui rencontre encore des obstacles pour des raisons éthiques et religieuses.
La France est très, très en retard là-dessus. Oui, mais enfin, on est un pays laïque, donc moi, je ne suis pas religieux, donc qu'on ne nous serve pas la religion comme argument. On est un pays laïque et je trouve que chaque personne qui a envie de quitter la vie devrait avoir la permission de le faire.
Petite parenthèse, un petit peu moins grave au regard de ce dont nous étions en train de parler. Comme vous le savez, Lionel Duroy, j'anime cette émission littéraire qui a pour titre Wagon Livre. Et dans votre roman, vous écrivez, je vous cite, « Si je n'étais pas devenu écrivain, j'aurais choisi de conduire des trains, car les trains permettent de fuir. »
J'adore les trains. Quand j'avais 16 ou 17 ans, mon rêve serait été de conduire des trains. D'abord parce qu'on est seul dans sa locomotive et que les voies ferrées, les espaces de voies ferrées m'ont toujours fait rêver. Je trouve ça magnifique en fait. Ce sont des trouées, c'est comme les fleuves, c'est très beau. Et j'aime tellement les trains que les premiers textes que j'ai écrits pour un journal qui était à l'époque Libération, je m'étais arrangé avec la SNCF pour écrire sur la vie des cheminots. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours Paris-Marseille dans la locomotive. À l'époque, il n'y avait pas des TGV. Et j'étais fou de joie, moi, dans ma locomotive. Et ce que je pense, c'est qu'on ne devient pas écrivain par hasard. Parce que écrivain, c'est dur. Si on écrit, c'est par nécessité. Et souvent, quand j'étais perdu dans un de mes livres et enfermé dans de grandes difficultés, je me disais, mais pourquoi j'ai pas plutôt choisi de conduire des trains? J'aurais eu une vie facile, c'est sympathique de conduire des trains. On n'est pas toute la journée à se tourmenter. Alors qu'un écrivain, c'est tout le temps tourmenté. Moi, je suis tout le temps tourmenté. Mais je suis très content de ma vie, hein. Je n'aurais fait qu'écrire finalement.
Nous avons bien compris l'objectif de votre narrateur qui veut donc disparaître et qui en tout cas, lui qui est candidat à la disparition, a des modèles et notamment des modèles littéraires, des écrivains qui ont réellement choisi de disparaître, à commencer par le romancier russe Léon Tolstoï.
Je m'aperçois que les disparitions, c'est très difficile en fait. Que la plupart des personnes que j'ai aimées comme Léon Tolstoï, comme Bernard Moitessier, le navigateur, et d'autres.
Peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, n'est-il pas superflu de rappeler qui est Bernard Moitessier ?
Moitessier, c'est extraordinaire. C'est une de mes aventures. C'est l'année de mes 18 ans, 68. Bernard Moitessier fait le premier tour du monde à la voile sans assistance. C'est une épreuve considérable. C'est plusieurs mois seul en mer, sans aucune assistance. Or, il arrive le premier sur les côtes françaises, mais au moment de passer la ligne d'arrivée, il dit « Non, je ne passe plus la ligne d'arrivée, je continue à tourner autour du globe. Je ne veux pas rentrer, je veux sauver mon âme », dit-il. J'ai 18 ans et je me dis « Il est magnifique cet homme ». Il est peut-être devenu un peu fou, mais à force d'être seul sur la mer, dans la beauté des éléments comme ça, il rentre plus, il veut plus la société des hommes, il n'a pas envie de nous retrouver et il a raison. J'ai pensé, il veut disparaître et il a raison.
Et votre narrateur est dans le même état d'esprit car il dit, je crois que moi aussi, je continuerai.
Pour moi, c'est un exemple de disparition que je pense réussie, celle de Moitessier. C'est un exemple pour moi. Et en fait, non, mais c'est pas le cas non plus pour Moitessier, puisqu'en fait, j'explique à mon éditeur que d'une certaine façon, je veux faire comme Moitessier. Et en faisant des recherches sur Moitessier à ce moment-là, je m'aperçois qu'il est mort dans son lit, dans un pavillon de banlieue. Donc en fait, voilà. Donc en fait, là aussi, c'est une disparition qui a échoué, comme celle de Léon Tolstoï.
Alors pourquoi Tolstoï décide-t-il en 1910 de fuir? En fin de compte, que fuit-il?
Il fuit sa femme. Il fuit Sofia, sa femme, qui n'arrête pas de fouiller dans son bureau pour lire ce qu'il écrit. Donc ça fait déjà des mois qu'il cache tous ses manuscrits dans ses bottes, sous les semelles de bottes et tout ça. Et la dernière nuit, et c'est lui qui le raconte, il entend une énième fois sa femme fouiller dans son bureau, dans ses papiers. Lui, il dort dans la petite pièce à côté, seul dans son lit, et il dit sa colère, quoi. Il dit « je ne peux plus la supporter ». Et cette nuit-là, il décide de fuir. Et donc, avec la complicité de sa fille et de son médecin personnel qui habite dans la maison, ils font leur bagage tout doucement et quand la femme de Tolstoï s'est enfin endormie à 6 heures du matin, ils s'enfuient. Voilà. Et donc, ils se font conduire par une diligence jusqu'à la gare la plus proche de sa propriété. Ils montent dans le train avec son médecin personnel. Sa fille retourne à la maison. Elle a ordre de ne pas dire où il est parti. Et lui, il part. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que pendant 8 jours, il va passer son temps à changer de train et à tourner autour de la propriété familiale, comme s'il était aimanté par le malheur qu'il y a dans cette maison. Et finalement, il ne va pas disparaître parce qu'il va tomber malade. Le train va s'arrêter pour lui dans une toute petite gare. Le chef de gare va le reconnaître. On va lui préparer un lit. Et quand à ce moment-là, on va apprendre à Moscou, à Saint-Pétersbourg et partout que le très grand écrivain Léon Tolstoï est en train de s'éteindre dans une petite gare, le monde entier va accourir autour de cette gare. Donc vous voyez, pour ce qui est de disparaître, c'est raté.
Je rappelle au passage, puisqu'on parle de ce grand romancier russe qu'est Tolstoï, qu'il est mort après 6 jours d'agonie le 7 janvier 1910. Et dans votre roman « Disparaître », Lionel Duroy, il y a d'autres écrivains aussi que vous mentionnez. Notre narrateur part donc à vélo avec dans ses sacoches différents livres, notamment la correspondance privée d'un soldat allemand disparu à l'âge de 19 ans sur le front à Stalingrad. Mais ça, vous me l'avez dit hors micro, je sais désormais que cette correspondance de ce jeune soldat allemand, c'est une pure fiction que vous avez choisi de placer dans votre roman. En revanche, et là c'est la vérité, vous possédiez bien l'autobiographie d'un écrivain roumain, Petru Dumitriu, très peu connu en France, alors qu'il a été l'écrivain du régime communiste roumain, et que Petru Dumitriu s'est enfui de Roumanie et qu'il a, à sa manière, lui aussi, choisi la liberté.
Qui a été traduit quand même aux éditions du Seuil et aux éditions, je ne suis pas sûr que ce soit de Noël, mais je crois. Moi, j'ai tous ces livres, tous les livres de Petru Dumitriu. Voilà, La Moisson,
c'est le phare de cet écrivain.
Qui est magnifique, qui est franchement magnifique. C'est un très grand écrivain qui est à la fois détesté par les Roumains parce qu'il s'est enfui du pays sous le régime communiste, alors qu'il était l'écrivain du régime, et qui est inconnu en France parce que c'est Virgile Giorgiou qui lui a fait de l'ombre. Les Français, à cette époque-là, ne lisent que la 25e heure de Virgile Giorgiou et ils ignorent absolument les quelques écrivains roumains qui entrent en France.
Alors pour revenir à l'écrivain dont nous parlions, à savoir donc Petru Dumitriu, il est né en Roumanie en 1924 et il est mort en France, à Metz, en 2002.
Oui, et j'aurais tellement aimé le rencontrer et j'ai pas osé en fait, alors que j'adore ses livres. Bah, j'ai pas osé aller le déranger, c'est très souvent comme ça, parce que je savais pas quoi lui dire, si ce n'est « je vous admire infiniment ». Et donc ce serait aujourd'hui, j'oserais évidemment aller le voir. Et j'ai longtemps rêvé de retrouver ses filles, puisqu'il y a 2 filles, dont l'une avait été abandonnée en Roumanie.
Je vais vous demander, Lionel Duroy, de revenir sur la fuite de Petru Dumitriu, qui écrit des romans à la gloire du régime communiste roumain, c'est bien avant Ceausescu, et Petru Dumitriu finira par tourner le dos aux honneurs de ce régime politique. Il décide donc de fuir avec sa femme, de quitter la Roumanie pour profiter de la liberté. Et pourtant, c'était l'écrivain officiel du régime communiste roumain.
C'est l'écrivain du régime, donc il a une maison, une très belle voiture, une Buick. Il est soigné par le régime parce qu'il écrit des romans à la gloire du communisme, mais secrètement, il écrit des romans magnifiques à lui, beaucoup plus libérés. Et à un moment, il n'en peut plus de cette contrainte et il décide de fuir le pays. Et ils ont 2 enfants avec sa femme, dont une petite nouveau-née. Et pour qu'on les... Pour duper le régime, ils laissent la petite et ils disent « on part en voyage ». À partir du moment où ils laissent un enfant, le régime communiste est persuadé qu'ils ne vont pas quitter le pays. Or, ils décident d'abandonner cet enfant provisoirement et ils décident de fuir par Berlin. Et donc là, le moment où ils arrivent à fuir la sphère communiste en franchissant les barbelés à Berlin est d'une très très grande intensité, d'autant qu'on sait qu'ils ont laissé cet enfant, cette petite fille, à la sœur de Madame Dumitriu. Et c'est très violent, c'est très. On voit là la nécessité absolue de fuir pour survivre. Et on paye cela de pratiquement de la vie d'un enfant, quoi. C'est très, très émouvant. Enfin, c'est un des passages qui me bouleverse, moi, toujours dans la vie de Dumitriu. Et ensuite, ça va devenir une affaire d'État franco-roumaine parce que le gouvernement français va mettre 5 ans à récupérer cet enfant, puisque Petru Dumitriu a reçu l'asile politique en France. le gouvernement français lui promet d'essayer de récupérer sa petite fille et ça va mettre entre 4 et 5 ans de négociations pour que cet enfant leur soit enfin rendu.
On aura très vite l'occasion de revenir sur la Roumanie, un pays que vous connaissez bien, Lionel Duroy, un pays d'ailleurs que vous aimez particulièrement.
J'adore la Roumanie. Moi, j'ai écrit un roman qui se passe entièrement en Roumanie, qui s'appelle Eugenia, qui a été aussitôt traduit en roumain. Donc, j'étais retourné à Bucarest pour la sortie de ce roman en roumain. La Roumanie est un pays que j'adore. C'est vraiment un pays de mon cœur. Hein.
Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, Lionel Duroy, on va reparler de la Roumanie et notamment de la région de Sulinac que traverse votre narrateur. Je rappelle, Lionel Duroy, que vous avez fait paraître un nouveau roman le 24 août dernier aux éditions Mial et Barreau, nouveau roman qui a pour titre « Disparaître » et vous êtes jusqu'à midi notre invité sur Radio. On se retrouve d'ici quelques minutes.
Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaître à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons notre invité Lionel Duroy aujourd'hui à bord de votre émission littéraire pour son dernier roman intitulé Disparaître, sorti fin août dernier aux éditions Mial et Barreau. Lionel Duroy, avant la pause musicale, nous parlions de la Roumanie. En effet, votre narrateur, pour se rendre à Stalingrad, traverse la Roumanie et il s'arrête dans une région particulière de ce pays de l'Est.
Sulina. Vous savez, moi, depuis que je suis enfant, je cherche sur la Terre des lieux où je pourrais disparaître ou devenir anonyme, ou vraiment disparaître parmi les hommes. Et Sulina, qui se situe dans l'estuaire du Danube, à l'endroit où le Danube se jette dans la mer Noire, a été une ville et est devenue une ville fantôme. Sulina, ça a été, à partir de 1900 et un peu avant, la première communauté européenne. C'est-à-dire que tous les pays européens, dont la France, ont construit là-bas une ville parce qu'il fallait financer le Danube, la drague du Danube. Le Danube était en train de s'ensabler. Or, tous les pays européens, notamment l'Allemagne et la France, avaient besoin à l'époque du Danube pour naviguer. Donc, on construit toute une ville avec un parlement, des ambassades, un théâtre, un cinéma, quatre hôtels, etc., etc. On construit sur le sable et parmi les roseaux une ville qu'on va appeler Sulina, qui est donc sur les berges du Danube. Et cette ville, à partir de 1939, on l'abandonne. Donc aujourd'hui, moi je vais dans cette ville, on ne peut plus l'atteindre par la route, on ne peut plus l'atteindre que par bateau. J'arrive avec mon vélo, je prends le bateau et je me fais déposer à Sulina. Et là, je découvre ce que j'adore en fait, une ville fantôme. C'est-à-dire que la plupart des maisons sont en ruine. Il y a des chevaux sauvages qui marchent dans les rues de la ville.
Exceptionnel.
C'est d'une beauté incroyable.
Il y a quelques habitants quand même.
Ah oui, oui, il y a encore des habitants âgés comme moi, plutôt âgés, vous voyez.
Un peu coupé du monde.
Ah ben coupé du monde, parce qu'il faut prendre le bateau pour rejoindre le monde. Mais il y a encore, vous voyez, l'hôpital a été immense, il ne reste plus qu'un tout petit dispensaire dans une aile de l'hôpital qui n'est pas effondrée, le reste est effondré. Beaucoup des bâtiments qui ont été des petites ambassades ou des consulats sont effondrés. Beaucoup de maisons s'étalent le long des rues, c'est très joli, il y a 8 rues en fait. Au fur et à mesure que Sulina grandissait, on construisait des rues en parallèle, vous savez, comme aux États-Unis quand on construit des villes.
En damier, quoi.
Voilà, en damier. Mais en même temps, tout ça maintenant est en ruine, quoi. Et donc, il y a des chevaux, là, qui marchent dans les rues. Et là, je suis rattrapé par ce que j'aime tellement dans la vie, mon amour pour les maisons. Et ça, j'ai trouvé ça formidable, en fait. Tout d'un coup, c'est les hasards du voyage qui m'ont redonné vraiment envie de vivre et pas du tout envie de disparaître. C'est-à-dire, je me suis vu m'installant dans une de ces maisons. Je suis monté dans une maison en ruine. Je regarde par la fenêtre, il y avait 2 chevaux dans le jardin qui broutaient tranquillement. Je me dis, mais c'est un lieu incroyable. Moi, je m'installe à Sulina. Personne ne saura où j'ai disparu.
Et combien peut coûter une maison à Sulina?
Oh ben rien, je pense, peut-être 20 000 euros, peut-être encore, je ne sais pas à qui on paye, parce que ce qui est très émouvant, c'est que les portes d'entrée sont encore solidement cadenassées, vous savez, des gros cadenas, des vieux cadenas, parce que les gens sont partis en 1939, quand les premiers bombardements ont commencé, et qu'entre-temps, les toits sont tombés, les fenêtres se sont cassées, donc vous n'entrez pas par les portes, vous entrez par les fenêtres dans la maison, et vous visitez la maison. Mais la porte elle-même reste cadenassée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas retrouver les propriétaires. Donc je ne sais pas, on peut sûrement acheter une maison, mais je ne sais pas à qui on la paye.
Et page 246, Lionel Duroy, dans votre roman « Disparaître », vous écrivez « Dans beaucoup d'endroits où je me suis soudain senti heureux, j'ai voulu acheter une maison. À Bizerte, à Luc-sur-Mer, à Roubaix, où je m'étais installé dans les années 1990 pour écrire un roman, mais aussi à Turin, à Usum, à Banja Luka, à Yengen, à Yaché, à Chichino, partout où j'ai séjourné pour préparer un livre. » Qu'est-ce qu'il me prend de recommencer à Sulina alors que je suis en route pour disparaître ?
Non, mais j'ai toujours cherché. Mais en fait, ça suffit le désir. C'est-à-dire que vous commencez à parler aux gens en disant « J'aimerais tellement avoir une maison ici et pouvoir m'installer ici. » Et d'ailleurs, à Iași, en Roumanie, les gens m'aiment beaucoup. Enfin, je connais beaucoup de gens. Et maintenant, j'ai une espèce de maison à moi. Chaque fois, je vais toujours dans la même famille et elle me passe la maison qui est au fond du jardin. Donc en fait, quand je suis en Roumanie, j'habite une maison.
Et en fait, lorsque vous séjournez en Roumanie, vous parlez sur place un mélange de roumain et de français.
Je parle un mélange de toutes les langues, donc c'est une espèce de charabia. Mais ce qui est propre à la Roumanie, c'est que vous pouvez discuter avec des roumains. Ils mettent des mots de français dans la conversation. Vous mettez des mots de roumain, des mots d'anglais, des mots d'un peu toutes les langues. Et après 2 heures, je m'aperçois, en discutant avec eux dans une ferme, par exemple, parce que je m'intéresse aux vieux tracteurs. Donc, on parle des vieux tracteurs construits à Moscou et tout ça avec les fermiers. Et au bout de 2 heures, j'ai eu l'impression qu'on parlait la même langue, alors que je ne parle pas le roumain, en vrai. Mais c'est pareil, c'était formidable.
À l'instant, Lionel Duroy, enregistré le 25 septembre 2022 lors de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Je rappelle le titre du roman de notre écrivain invité, « Disparaître » donc par Lionel Duroy, chez Mialet Barreau, éditeur. Prochain rendez-vous de votre émission littéraire sur Radion, samedi 14 janvier 2023, toujours à 11h, pour une rétrospective de l'année 2022 à travers un choix d'extraits d'entretien avec certains des écrivaines et écrivains que nous avons reçus courant 2022 devant notre micro. Merci de votre écoute et de votre fidélité à toutes et à tous. Nous vous souhaitons un excellent congé de fin de semaine et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en écoute et en podcast sur notre site internet www.yannickpetit.fr. Bonne année encore 2023 à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.